Nous allons maintenant regarder le gouvernement de Dieu par rapport à l'homme. Il faut voir que, de fait, Dieu seul crée l'âme, sans intermédiaire. Si ce problème n'était plus reconnu, par le fait même, le gouvernement de Dieu sur l'homme serait le gouvernement de Dieu le même pour l'homme que pour tous les êtres naturels, que pour la vache, que pour l'éléphant, que pour le lion. C'est vraiment le fait de la création de l'âme directement par Dieu qui pose un nouveau problème du gouvernement. Je crois que c'est la première chose qu'il faut bien saisir. Et alors évidemment, le problème de la création de l'âme est présupposé. Au point de vue philosophique, on l'a traité précédemment. Il faut se le rappeler. Alors, les découvertes scientifiques qui se font pour essayer de voir si vraiment on ne peut pas créer, du moins on ne peut pas réaliser l'homme, la femme d'une autre manière, que le procédé naturel voulu par Dieu. Est-ce que ça changerait quelque chose au gouvernement divin? Je trouve ça qu'un petit problème antérieur, c'est pas directement un problème. Autrement dit, est-ce que Dieu coopérerait à une action naturelle, artistique, qui est faite contre ce qu'il a voulu comme créateur. Et c'est un problème qui se posera, et qui se pose déjà dès maintenant. S'il n'y a pas création de l'âme, il n'y a pas de problème. S'il y a création de l'âme, alors là, ça regarde Dieu, ça. Le problème du gouvernement divin sera le même. Donc ça, c'est important de voir que le problème du gouvernement divin, pour nous, sur nous, regarde la création de notre âme. Quand la création de cette âme se fait, le philosophe ne peut pas le préciser. Le Saint-Père l'a reconnu. Ce n'est pas à cause du Saint-Père que je dis ça, mais il l'a reconnu. On ne peut pas préciser. Au plan philosophique et au point de vue de la foi non plus. Il y a des courants très nets au point de vue des chrétiens, des philosophes chrétiens, pour dire que Dieu crée l'âme tout de suite, en même temps que la conception biologique. Et ceci, c'est pour des raisons apologétiques. Alors je crois que ces raisons apologétiques n'étant pas des raisons scientifiques et philosophiques, je ne crois pas qu'on puisse argumenter là-dessus. Alors, je reçois régulièrement, Mon père, vous n'acceptez pas la création de la nuit. Vous êtes presque le seul actuellement. Le Saint-Père n'a rien dit. Il est prudent. On ne peut pas apprécier. Et alors, il y a un petit peu contre Thomas d'Aquin, cette volonté de montrer que Thomas d'Aquin s'est trompé pour ça. Puisqu'il le met. Mais assez tardivement. Je crois qu'il faut mettre beaucoup plus vite. On a cherché une année, on l'a fait entre nous. C'était du reste très intéressant. Parce que il y avait d'anciens médecins et on avait étudié, voir si c'était possible de préciser à quel moment est là. Je me demandais, mais c'est dans l'hypothèse, c'était pas le moment où le cycle, la circulation du sang devenait individuelle. C'est très curieux que le sang et l'âme sont liés dans l'écriture. Comme une très vieille tradition que le sang et l'âme s'affichent. Et ça ne m'étonnerait pas, alors j'ai dit que c'est une hypothèse, que si l'âme est créée, nécessairement le principe vital de l'être nouveau est donné. Or, au fond, au point de vue génétique, l'embryon n'est pas immédiatement autonome quant à la circulation de son sang. Il est lié à la mère et c'est le même. C'est pas le même cycle, si vous voulez, mais il est dépendant de la mère. La preuve, s'il était séparé, il ne vivrait pas. Je crois que c'est quand même très important comme chose. Si l'âme existe, il y a un principe vital, substantiel. Alors, c'est sûr que les circonstances de l'âme, du manière de vivre sont très importantes. Si le vivant n'a plus, si le petit vivant n'a pas le milieu vital suffisamment fort pour progresser, il périra. Alors là, vous voyez, ce serait le moment de savoir quand l'enfant, avec une naissance qui est anticipée pour des raisons multiples, continue de pouvoir vivre. Et quand on permet au petit enfant qui est prénaturel, avant la naissance normale, qu'on essaie de sauver quand on le fait vivre sous cloche pendant un certain temps. Des petits êtres qui sont tout petits et qu'on arrive à faire vivre pendant plusieurs mois. Alors, il y a un moment où ils sont trop petits, trop dépendants. Alors, est-ce que ce serait ça ? Je cherche un signe, parce qu'on ne peut avoir qu'un signe. Dieu ne m'avertit pas quand il crée l'âme. Donc je ne peux dire que l'âme est là que lorsqu'il y a un signe d'autonomie suffisant pour pouvoir vivre au-delà de sa mère. dis, c'est un problème qui reste. Il n'y a pas de solution. Et je crois qu'il ne faut pas apologétiquement, vous voyez, hein, alors dire très vite ça. L'avortement est de toute façon que l'âme soit présente ou ne soit pas présente, il y a le meurtre d'un homme futur. Et c'est suffisant pour que l'avortement soit défendu. Évidemment, si l'âme est présente, c'est plus grave, c'est sûr. Mais gravité physique, c'est plus grave. Gravité morale, c'est la même. Que l'âme humaine soit présente, déjà créée, que l'âme humaine soit pas créée, le point de vue moral, l'intention morale est la même. Puisque c'est un être qui, normalement, deviendrait un homme. Et l'homme n'a pas le pouvoir d'arrêter ça. Il n'est pas le maître d'un autre être pour l'empêcher d'être, pour l'empêcher d'exister. Au point de vue biologique, donc quant à l'effet, c'est évidemment différent s'il n'y a pas encore d'âme ou s'il y a une âme. Mais comme le point de vue moral est le même, de toute façon, il y a avortement. Je prends le cas normal, alors. Dieu crée l'âme. Dieu, comme créateur de l'âme, on dit qu'il est père. Et cette expression de la paternité de Dieu en raison de la création de l'âme est très ancienne. Les stoïciens le disaient, le remarquaient. Et les néoplatoniciens également. Parce que pour eux, la paternité est du côté de la finalité. Le père, c'est celui qui va éduquer l'enfant pour que l'enfant puisse découvrir sa finalité. Si un père déshérite quelqu'un, son enfant, par exemple, dans l'écriture Ismaël, la paternité d'Abraham était au point de départ, puis il était obligé de chasser Ismaël pour que le petit Isaac puisse vivre calmement dans les bras de sa mère. C'est la mère qui était jalouse. Et c'est très curieux, hein, que Abraham a suivi la jalousie de Sarah. Ça, ça fait l'écriture. Déshériter, c'est une faute contre la paternité. Le père, c'est celui qui non seulement est l'auteur de la vie, mais comme il est l'auteur de la vie d'un être qui est dans un état de petitesse quand il naît, il faut l'éduquer, l'éducation. Et une éducation qui doit pouvoir aller jusqu'à au fait qu'il va hériter de son père. Il hérite de son père son nom et normalement de ses biens. si son père a pu être économe. L'héritage. Vous remarquez dans l'écriture, ça c'est pas le philosophe, mais le philosophe a le droit de s'intéresser à la Genèse et de considérer la Genèse comme un document très intéressant. Je connais des philosophes qui aiment énormément la Genèse pour voir ce que c'est que la famille et ce que c'est que la paternité. La paternité est non seulement être père de l'apparition d'un être nouveau, mais la paternité consiste à aider, à coopérer au développement du petit enfant, développement physique, développement moral, développement intellectuel, et qui donne à l'enfant tout son héritage. C'est très important de comprendre que l'héritage fait partie de la paternité. Quand vous dites que Dieu est père, alors au point de vue surnaturel, c'est parce que Dieu nous promet le même bonheur qu'il a, son héritage. Et son héritage, c'est son bonheur, se voir tel qu'il est, parfaitement, de voir toute sa splendeur. Donc c'est la vision béatifique. La vision béatifique est rattachée à la paternité. Ça, c'est au plan surnaturel. Au plan naturel, c'est normal. La paternité implique la responsabilité d'éduquer l'enfant. De l'éduquer pour lui permettre d'être parfaitement lui-même, capable de choisir sa finalité, et donc de permettre à l'enfant telle manière de vivre qui perfectionne sa nature et lui permet d'atteindre sa fin. Alors c'est là où joue le gouvernement divin, un gouvernement paternel. Il est naturellement paternel. Il est moins fort qu'au point de vue surnaturel, mais il est normalement paternel. Et alors qu'il est bien évident que lorsque vous considérez qu'il n'y a plus de création de l'âme, il n'y a plus le problème du gouvernement divin, personnel. Mais autrement, puisque l'âme est créée par Dieu pour chaque individu, la création de l'âme implique le gouvernement paternel de Dieu sur cet être rationnel, raisonnable, d'éduquer l'enfant, de permettre l'éducation de l'enfant, jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Et à sa mort, Dieu jugera ce petit enfant de l'homme, ou cette petite fille de l'homme. Et philosophiquement, Dieu lui donnera un bonheur on ne sait pas lequel, au point de vue philosophique. Mais Dieu l'adoptera jusqu'au bout. Ça fait partie du mystère de Dieu, ça. Ce serait contraire à la grandeur de Dieu de considérer que Dieu abandonne la créature spirituelle qu'il a créée. Dieu, en créant une âme de vie spirituelle, s'engage à l'éduquer jusqu'à sa mort. Je crois que cela fait partie directement de la bonté de Dieu et de la sagesse de Dieu. Ce ne serait pas sage de dire et de prétendre que Dieu crée une âme spirituelle et abandonne cette âme spirituelle. Mais il faut bien comprendre que Dieu lui donne les secours nécessaires dans l'ordre de la recherche de la vérité, dans l'ordre de l'amour, suffisant pour que l'homme s'oriente vers lui. Que l'homme respecte que Dieu est Seigneur, qu'il est Père. Et donc, par le fait même, il s'intéresse à la destinée du petit de l'homme. Et ceci, c'est naturel. Et c'est très important de le saisir. Il y a un gouvernement divin paternel sur chacun, sur chacune de nos âmes. Alors, on peut préciser quelle est cette éducation, autant qu'on peut le savoir, parce que actuellement, nous vivons, nous, au point de vue surnaturel. Mais le point de vue surnaturel ne détruit jamais le point de vue naturel. Donc, avec le point de vue surnaturel dont je peux avoir l'expérience, dont je peux affirmer que Dieu paternellement me guide, je peux comprendre ce secours paternel, cette bienveillance paternelle de Dieu à l'égard d'une créature rationnelle, une créature humaine. Même si l'ordre surnaturel existe, l'ordre surnaturel ne supprime pas l'ordre naturel. Donc, du fait que le point de vue surnaturel existe, l'ordre naturel n'est pas supprimé. Ça, c'est très important de le rappeler. Donc, puisque l'ordre naturel n'est pas supprimé, il est normal que l'homme puisse se poser le problème qu'est-ce que je serais devenu s'il n'y avait pas le point de vue de cette conduite de Dieu sur moi. Dieu n'abandonne pas son œuvre. Ce serait contraire à sa sagesse. Alors, Dieu me conduit comme un être libre, comme un être qui doit librement développer sa liberté, sa recherche de la vérité et sa recherche d'un amour plus vrai. Il peut en lui-même considérer que le Père est là pour assurer que Dieu est là comme Père pour soutenir, pour aider ma nature humaine de s'épanouir vers le bien, vers ce qui est conforme à la loi de Dieu. Il serait naturel même que Dieu me montre et que, prenant cet ordre naturel, je prends une conduite de vie. Dieu n'abandonne jamais, mais ne pouvons-nous refuser ? Du côté de Dieu, nous savons très bien que Dieu, créant l'âme humaine librement, librement, il se charge d'elle. Il se charge d'elle parce que il sait la valeur de l'âme, il sait la grandeur de l'âme qui est faite pour voir Dieu, pour connaître Dieu. Le voir et le connaître, on ne sait pas comment. Mais mon âme ne peut jamais être satisfaite totalement par les biens physiques. Et donc, il y aura toujours l'aide de Dieu pour bien agir, pour agir correctement, pour agir selon une morale, une activité humaine qui soit morale. Je peux ajouter tout de suite que Dieu, me créant libre, du moins créant dans mon âme la possibilité qu'il y ait l'éveil de la liberté, Dieu m'est élevé. Il est donc celui qui accepte le non-vouloir, le péché, le refus de l'obéissance. Philosophiquement, on peut étudier que l'homme est capable de désobéir à Dieu. Il est capable non seulement de dire « Dieu n'existe pas », ça c'est le problème de la création, mais il est capable de dire « Dieu est incapable de me conduire au bien. » Je crois. Dieu est capable de quitter son Père, de le refuser, de lui obéir et de voir uniquement en sa tête. Le péché n'est pas surnaturel, il est naturel. Et donc, le philosophe doit le reconnaître. Et il peut le reconnaître que lorsqu'il a vu création de l'âme. Et donc, la création de l'âme permet au philosophe de reconnaître qu'il peut être conduit par Dieu d'étape en étape, de purification en purification. Et peut-être pris par Dieu d'être conduit par Dieu vers le bien, vers la recherche de la vérité. C'est un bien naturel. Dieu permet le péché. C'est-à-dire, il laisse l'homme libre de refuser Dieu qui me conduirait vers le bien, qui me permettrait d'opter pour le bien. C'est là où je dois voir ce qu'est le péché naturellement, au point de vue naturel. Qu'est-ce que représente le péché ? Je le vois dans cette perspective que l'homme peut se libérer du joug de Dieu, peut se libérer de la conduite de Dieu sur lui. L'homme est capable, dans sa liberté, de refuser d'aller vers le bien, de refuser la vertu et de se retourner sur lui. Le péché sera donc au plan philosophique et on peut traiter du péché déjà en éthique, on traitera du péché à l'égard de l'homme, à l'égard du pécheur et à l'égard du frère aussi. Mais forcément, au point purement philosophique, le péché est premièrement l'exercice libre de ma volonté dans une fin. Et l'homme est capable, au point de vue naturel, au contraire, de demander à Dieu la lumière pour qu'il agisse bien, pour qu'il agisse conformément au bon plaisir de Dieu. Mais la loi naturelle existe. De fait, Dieu a donné à Moïse l'étape de la loi. Ça, je n'ai pas le droit de m'en servir au plan philosophique. C'est quelque chose de surnaturel. Mais je vois que naturellement, il y avait en l'homme la distinction entre qui avait naturellement à l'homme la possibilité d'éviter la faute et d'établir une ligne nette et précise vis-à-vis de Dieu. Donc le péché est naturel. Et s'il est naturel, il peut être détecté par le philosophe. Il doit l'être. Le péché peut aller jusqu'à refuser l'aide de Dieu. Et le péché sera toujours l'orgueil. Le péché pourra être aussi passionnel. Quand il est orgueilleux, il est intellectuel. C'est le péché le plus grave. s'il fourvoyait son intelligence par rapport à l'ordre naturel. Et je crois que, humainement, philosophiquement, le péché, c'est ce désordre que l'homme est capable de réaliser en se repliant sur lui-même, sans vouloir faire l'effort de prendre une mesure, une couronne de vie. Il peut faire ça. Il est capable de se gonfler d'une façon telle qu'il refuse Dieu, qu'il nie Dieu. Le péché peut aller plus loin. Ce sera le péché à l'égard de sa propre destinée. C'est-à-dire que l'homme est capable de refuser Dieu, de le nier, de dire Dieu n'existe pas. Et si l'homme dit Dieu n'existe pas, c'est pour s'exalter comme être premier. En refusant l'existence de Dieu, l'être humain s'exalte. C'est toujours un péché d'orgueil. Mais il y aura aussi des péchés contre le bien d'autrui. S'exaltant lui-même, il refuse d'obéir à Dieu, se mettant au-dessus, se mettant en premier. Et à partir de ce péché-là, tous les autres péchés peuvent très bien prendre possession du cœur de l'homme. Oui, je crois que naturellement, c'est le péché d'orgueil qui crée le plus grand désordre. S'il n'y a pas eu de péché d'orgueil, l'homme naturellement aurait sa sensibilité qui est soumise à l'intelligence. Et donc, les passions ne pourraient se développer c'est le non-serviam. Et le non-serviam de l'Écriture, il ne faut pas oublier que l'homme, là, dans l'Écriture, est créé avec la grâce. Et ça, je peux le dire que par la foi. Point de vue philosophique, le premier homme, c'est ce que le philosophe peut atteindre, c'est l'homme raisonnable. Et l'homme raisonnable doit normalement se soumettre à son créateur. Mais il a en lui une passion. Les passions sont naturelles. Des passions qui pourraient, comme l'aveugler. Donc, naturellement, ce seraient les péchés à l'égard de l'ordre parfait qu'il a en lui, c'est-à-dire de mettre un désordre, de préférer tel ou tel bien sensible au bien propre qui lui est promis. Autrement dit, je crois qu'il aurait pu avoir un désordre passionnel. C'est sans doute ce désordre passionnel qui aurait été le premier. Et à cause de ce désordre passionnel, il y aurait eu un désordre spirituel. Alors que par la grâce, le désordre spirituel était avant le désordre passionnel. Je crois, évidemment, lorsqu'il s'agit de concevoir ce que serait l'homme sans la grâce, c'est toujours très délicat, parce que je n'ai pas d'expérience, mais j'ai l'expérience que l'homme fondamentalement est bon. Que l'homme dans sa nature humaine, fondamentalement, est bon. Et c'est pour ça que je ne peux pas considérer que le premier péché de l'homme aurait été l'orgueil. Ça aurait été plutôt des péchés de faiblesse. Et point d'interrogation. Je ne sais pas proprement. C'est très difficile. Parce que qu'aurait été l'homme sans la grâce, créé par Dieu, son âme, et Dieu est Père pour conduire son âme à un certain bonheur, un certain plaisir. Et alors, est-ce que l'homme aurait pu pécher ? Oui. L'homme aurait pu pécher, puisqu'elle aurait été capable de refuser ce que Dieu demande. Ça, oui. Alors, quel aurait été le premier péché? Je crois que le premier péché aurait été un péché à l'égard du corps sensible, de notre corps. Puisque la passion est ce qu'il y a de plus proche en nous. L'intelligence, elle est abstraite. Et donc, elle vient après. Je crois que le désordre premier a été un désordre d'orgueil, où l'homme a préféré être lui-même et ne pas rejoindre Dieu. Et c'est délicat, c'est intéressant de se poser le problème. Qu'aurait été dans la nature humaine le point le plus faible qui aurait pu résister à Dieu? Alors que le péché dans l'ordre surnaturel, c'est d'abord un péché spirituel. Et le péché spirituel introduit le déséquilibre. Alors vous voyez, point de vue du gouvernement divin, ce gouvernement divin naturel, c'était de promettre à l'homme une certaine béatitude, un certain bonheur, si cet homme avait observé en conscience le bien, s'il était resté bon. Alors, qu'aurait été ce premier bonheur naturel ? On ne peut pas le savoir exactement. Ça aurait été sans doute le développement parfait de la nature humaine. c'est-à-dire une certaine contemplation de Dieu naturel, une certaine bonté. Et que par là, l'homme aurait pu acquérir un certain bonheur, un certain bien-être. Mais non pas voir Dieu. Voir Dieu est au-dessus de la nature. Mais tendre vers Dieu. Donc, une certaine ouverture vers Dieu. Respecter cela. Et puis un amour naturel vis-à-vis des autres hommes. Un amour naturel. Oui. Au point de vue de sa nature humaine, ce qui est convenable à sa nature humaine de respecter. Bon, on ne sait pas grand-chose, hein. Au point de vue de la nature des choses, des réalités, on peut, parce que Dieu conduit chaque réalité et la maintient dans une certaine perfection. Mais la nature humaine, Dieu crée, est capable, capable de s'exalter, capable de rejeter Dieu.